Tout de suite,
État et civil
sur LFM Radio.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas Boraski, j'espère que vous allez bien, vous êtes toujours bien sur LFM, sur le 95.5 FM, il est 11h, et comme tous les mercredis, c'est l'heure d'État civil, l'émission qui donne la parole aussi bien à l'État, aux collectivités, mais aussi aux citoyens, pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Aujourd'hui, dans l'émission État civil, on va aborder les cités éducatives, le label. Les cités éducatives sont un dispositif né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l'État et les associations. Elle vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu'à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Le label Cité éducative résulte de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le ministère de la Cohésion des Territoires. En termes de chiffres, on est à 200 cités éducatives labellisées, 1 million de jeunes de 0 à 25 ans, 230 millions d'euros de la part du ministère de la Ville pour un total de 323 collèges et 600 écoles mobilisées, en plus des lycées et universités. Directement sur notre département des Yvelines, quelques communes ont été choisies pour obtenir cette labellisation, comme Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie, Trappes, Les Mureaux ou encore Poissy, en étant les premières. Aujourd'hui, de nouvelles villes l'ont également obtenu, comme Plaisir, Sartrouville, Mantes-la-Ville et Limay. Pour faire le comparatif entre anciennes labellisations et nouvelles, j'ai pu rencontrer, vous allez écouter en première partie mon échange avec Jamel Nedjar, maire de Limay, qui ont obtenu dernièrement cette labellisation. Puis en deuxième partie, on écoutera celui avec Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes, faisant partie des premières villes d'expérimentation de ce projet-là. On écoute mon échange tout d'abord avec Jamel Nedjar, maire de Limay, et on revient juste après pour la pause musicale. A tout de suite.
LFM 95.5.
Jamel Nedjar, du coup, je suis chez vous directement à la mairie de Limay. La mairie de Limay, pourquoi ? Parce que vous avez obtenu le label Cité éducative. Pour les auditeurs et auditrices d'LFM Radio qui ne connaissent pas ce label-là, la Cité éducative, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la Cité éducative, c'est un label qui permet de reconnaître le travail mené par l'ensemble des acteurs de la communauté éducative pour favoriser une éducation auprès des publics de 3 à 15 ans, et notamment autour des questions liées à l'insertion professionnelle, la réussite éducative, sur les questions liées aussi sur la lutte contre le décrochage scolaire, tout en fédérant un certain nombre d'équipements présents sur ce territoire. La spécificité du label Cité éducative sur la ville de Limay, c'est que ça va concerner un quartier situé en QPV, c'est-à-dire un quartier en politique de la ville, avec un projet de réhabilitation important des cités qui sont présentes dans ce QPV, qui concerne plus de 3700 habitants, dont près de la moitié ont moins de 25 ans. Donc effectivement, ce label Cité éducative, c'est plus de moyens pour une plus grande réussite éducative.
D'accord, donc là vous avez dit de 3 à 15 ans, c'est de 3 à 25, c'est ça aussi ?
C'est ça, absolument.
Okay. Par rapport donc sur ce label-là, c'est un support, une aide financière qui est apportée à la ville, c'est ça ?
Oui, absolument. L'État accompagne ce dispositif avec une recette supplémentaire nous permettant de pouvoir développer des actions autour d'un certain nombre de projets qui seront identifiés par la communauté éducative, c'est-à-dire tous les acteurs qui rayonnent autour de l'école. Et donc pour nous c'est aussi faire travailler en réseau à la fois le collège, le lycée, les écoles élémentaires et maternelles, hein, puisqu'on est bien sur un public de 3 à 25 ans. Et puis pour nous c'est aussi de permettre à nos équipements, puisque le territoire de Limay a la chance d'être doté d'un certain nombre d'équipements, il y a le CRC, il y a l'école d'art plastique. Vous savez qu'on a une classe orchestre au collège Albert Thierry. On est en train de développer aussi une classe d'art plastique sur le collège Albert Thierry, donc qui est en REP. Et donc pour nous, c'est important de fédérer l'ensemble de ces acteurs autour d'un projet commun. Et le label Cité éducative vient conforter cette démarche initiée et qui va nous permettre d'aller encore plus loin avec des moyens supplémentaires octroyé par l'État dans le cadre de ce dispositif.
Concernant ce label-là, c'est une candidature que vous avez dû déposer. Comment ça s'est passé ?
Absolument. Donc, ça a été un travail partenarial avec l'ensemble des services concernés. Bien entendu, le proviseur du lycée Condorcet, les principaux, notamment des collèges présents sur la ville, du collège Albert Thierry, les directeurs d'école, l'ensemble des acteurs qui sont concernés par notre projet éducatif local. Bien sûr, on a eu un travail important avec les services de la ville, mais aussi avec le préfet à l'égalité des chances, Raphaël Sodini, et puis la déléguée au préfet Maria Josac, qui a réalisé un travail important et remarquable dans le cadre de cette candidature et qui nous a permis aussi de travailler cette candidature en mettant en avant les points positifs qui fait qu'une ville comme la nôtre a pu bénéficier de ce dispositif. Il n'y en a pas beaucoup en France. Limay en fait partie maintenant. En tout cas, pour nous, c'est le moyen et l'occasion de donner plus de moyens à la réussite éducative de nos enfants. Et en cela, c'est pour nous un sujet et un axe important de notre engagement politique. La question de l'éducation est une question centrale sur un territoire comme le nôtre, et notamment en QPV, qui concentre les populations les plus fragiles.
J'allais vous demander justement pourquoi avoir fait cette demande de labellisation. C'est aussi bien pour le quartier dit prioritaire de la ville, mais aussi bien pour la globalité de la ville de Limay.
Absolument, puisque vous savez que, à la différence peut-être d'autres communes, nos quartiers sont situés un peu partout sur le territoire communal. Ça représente 3700 habitants, donc c'est pratiquement un tiers, un bon tiers de la population, donc ce qui n'est pas rien avec une population jeune qui concentre aussi beaucoup de difficultés. Vous savez que dans les QPV, on a à peu près 40% de la population habitant en QPV qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc on connaît l'importance de ce type de dispositif pour les aider, les accompagner à se donner les moyens d'une réussite éducative. Et ces différents quartiers fréquentent plusieurs écoles de la ville. Et donc pour nous, c'est important que ce dispositif puisse aussi bénéficier et puisse rayonner sur la totalité des équipements présents sur la commune, aussi bien les équipements municipaux que les autres établissements scolaires qui ne sont pas forcément directement rattachés dans le quartier politique de la ville.
Alors plus pour rentrer dans le détail, comment ça va s'articuler du coup ces prochaines actions-là de la ville ?
Tout simplement, c'est que là, on a eu la bonne nouvelle il y a à peu près une semaine, donc maintenant les équipes se sont mises en ordre de marche pour commencer à travailler sur les différents projets. Nous allons effectivement déjà recenser toutes les actions qui sont menées et initiées qu'on va pouvoir prolonger. Donc, j'évoquais tout à l'heure par exemple la classe orchestre du collège Albert Thierry, il y a une classe d'art plastique aussi qui est prévue et sur lesquelles on est en train de travailler. On a aussi des dispositifs qu'on a mis en place contre le décrochage scolaire, notamment lycée Condorcet. Donc on a un certain nombre de dispositifs qui existaient déjà, que nous allons encore renforcer, prolonger. Et puis il y a des actions nouvelles qu'on va mettre en place dans le cadre du travail qui reste à mener. Nous allons aussi nous inspirer aussi de ce qui a été fait par d'autres communes qui ont été labellisées avant nous. Mais pour nous, l'important, c'est véritablement travailler avec les acteurs locaux et d'avoir un projet qui colle bien aux besoins de notre territoire. Chaque commune a ses spécificités. On a, dans le cadre de la candidature, décrit les situations et les besoins que j'ai évoqués tout à l'heure. Il faut partir de ce constat-là pour bâtir des actions, des nouvelles actions qui nous permettront de répondre à cet enjeu.
Vous anticipez mes questions. J'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a un exemple de cité éducative qu'on voit déjà actuellement en France ou même dans les Yvelines sur lesquels vous allez prendre peut-être exemple ?
Écoutez, je crois que la ville de Chanteloup a un peu d'avance sur ce sujet-là. Je sais que Catherine Arénou, maire de Chanteloup, a un peu d'expérience sur ce sujet-là. Ça sera pour nous aussi un bel exemple, même si Chanteloup n'a pas tout à fait les mêmes spécificités que Limay, mais en tout cas on a déjà une première expérience sur laquelle on va essayer de tirer, on va dire, les avantages et les bonnes expériences, et puis ensuite on va essayer d'éviter aussi les éventuels impairs que les équipes de Chanteloup ont pu faire. Mais pour nous, effectivement, on va essayer de partir de cette base-là pour aussi construire un projet qui colle aux spécificités et aux besoins de notre territoire.
Vous en avez parlé juste avant, la rénovation urbaine. Quel est le lien entre cette dernière et l'apprentissage ?
C'est-à-dire qu'en fait, le label Cité éducative, même si ça va concerner, puisque c'est pour une période de 3 ans, hein, donc ça va concerner les 3 prochaines années, et notamment sur le développement d'un certain nombre d'actions, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui vont concourir à la réussite éducative de nos Liméens. Mais il y a aussi un projet d'investissement ambitieux qui accompagne aussi ce dispositif-là, avec la construction d'une nouvelle école, puisque l'école Jean Zay, qui est maintenant une vieille école qui date des années 60 et qui est une véritable passoire énergétique et qui montre un certain nombre de signes de vétusté, comme vous pouvez vous en douter, et dans le cadre de ce mandat, nous allons reconstruire une nouvelle école qui sera adossée aussi à une maison des associations. Voilà, l'idée, c'est aussi de prôner l'école inclusive, une école ouverte sur la ville. Et donc, Limay a aussi la chance d'avoir un tissu associatif dense et riche. Et donc, dans le cadre effectivement de cette démarche que nous allons initier sur la cité éducative, ça va nous permettre aussi de développer un projet qui trouvera forme à travers ces nouveaux équipements qui vont être au cœur d'un nouveau quartier, avec des démolitions de bâtiments, un quartier des Hautes Meunières qui sera beaucoup plus ouvert, un parc qui fera l'objet d'une extension. Le parc Marcel Paul fera l'objet d'une extension. Les logements ont été réhabilités. Nous aurons aussi un projet de résidentialisation qui accompagnera aussi des travaux d'aménagement d'espace public autour de cette école et autour de cette maison des associations. C'est quand même un projet qui va coûter plusieurs millions d'euros. Le fait que le projet d'école soit directement en lien avec la réhabilitation d'une opération en rue d'intérêt régional fait qu'effectivement ça donne du sens à la démarche qui vise à une meilleure réussite éducative de nos Liméens.
Alors 3 ans, donc, durée de ce label-là, ça peut être aussi bien très court que très long pour certains. C'est quoi les axes prioritaires qui, une fois réalisés, vous dites c'est une réussite cette opération-là ?
Je pense qu'on a déjà des indicateurs qui sont déjà en place, nous permettent aussi de mesurer aussi les difficultés que nous rencontrons actuellement. Donc effectivement, sur ces indicateurs, l'idée c'est qu'on puisse les améliorer sur les questions de décrochage scolaire, sur notamment les questions liées à la réussite de nos enfants, sur les différentes filières qui seront présentes. Donc effectivement, on aura l'occasion de pouvoir évaluer. Et puis, bien entendu, tout le sens de cette cité éducative, c'est aussi de créer une symbiose et de faire travailler l'ensemble des acteurs, nous permettant justement de faire en sorte à ce qu'on ait un beau projet pédagogique autour de cette cité éducative va nous permettre tout simplement, avec les nouveaux bâtiments, les nouveaux locaux, une équipe enseignante, une communauté éducative au sens large du terme davantage présent, associer les parents, redonner l'estime de soi aussi aux enfants, redonner une ambition éducative. Pour nous, c'est important, l'idée de lutter contre des images préconçus d'un certain nombre d'enfants qui pensent que l'école c'est pas fait pour eux ou qu'ils ont un certain nombre de difficultés. Là aussi, il faut qu'on remette un peu de sens dans notre démarche et de montrer l'importance de l'école dans la réussite des parcours professionnels. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous.
Dernière question, donc label sur 3 ans, on parle d'un accompagnement notamment jusqu'à 25 ans, mais pour l'entrée dans le monde du travail. Une fois ces 3 ans passés, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une possibilité que le label soit renouvelé à nouveau ou comment ça peut se passer?
Alors, on espère que, bien entendu, le label sera renouvelé, puisque en 3 ans, même si j'espère qu'on aura fait beaucoup de choses, il restera encore certainement des choses à faire. D'autant plus qu'on souhaite inaugurer le nouveau groupe scolaire pour septembre 2025. Donc, voilà, on sera encore, on va dire, à mi-chemin par rapport à la concrétisation d'un projet. De construction d'un nouveau groupe scolaire. Vous savez, c'est pas souvent qu'on construit des nouveaux groupes scolaires. On sait que ça coûte très cher. Les communes n'ont pas forcément les moyens. C'est vrai qu'à Limay, on a construit le groupe scolaire Maurice Quétier que nous avons inauguré en 2016. Mais ça faisait avant plus de 20 ans qu'on n'avait pas construit un groupe scolaire. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un moment important. Et effectivement, je ne conçois pas que le label Cité Éducative, que la démarche Cité Éducative puisse s'arrêter à mi-chemin avant la concrétisation d'un projet de construction qui viendra aussi, on va dire, consacrer, on va dire, la réussite d'une démarche qu'on souhaite la plus totale.
LFL
95.5.
C'est la fin de notre première partie. Merci à Jamel Nedjar, maire de Limay, d'avoir répondu à toutes mes questions. En deuxième, nous allons continuer à parler des cités éducatives, cette fois avec Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes. On fait une petite pause musicale, on écoute Tout va bien de Alonso, Nino et Naps, et on revient tout de suite après pour la seconde partie d'État et Civil. A tout de suite.
Écoute le meilleur son d'hier et d'aujourd'hui sur le 95.5.
Hey. Mami, j'suis sur my eyes only dans son bigo. Bébé va rentrer tard, j'la charge en moto, en casque Momo. Mami, à la fois j'lui passe la veste à 3 points chez Moschino. Je te joue pas de violon, tu sais que je suis violent. Le bif tout ça c'est carré, ton avenir je peux assumer. Je te joue pas de violon, je te joue pas de violon.
C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. Je lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à F, fais la photo. Tout va bien. J'écoute pour m'aller, elle chante Lolo. Je suis certifié, je peux pas te follow. Tout va bien. Madame veut connaître mon budget pour la vie. Mais ça charbonne encore, donc c'est varié. À la fin du bal, on rencontrera les amis. Versace sur ma gauche, l'emmène danser. Il paraît que les séchés, c'est cher. Dis-moi le prix, je te dis si c'est dans mes corps. Fais pas la vis, là, tu pas né hier. Tu fais la meuf qui boude dans le féfé. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. J'lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. J'te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à elle, j'fais la photo. Tout va bien. Piloti, cocktail, coco. J'écoute pour m'aller, elle chante Lolo. J'suis certifié, j'peux pas te follow. Tout va bien.
À cette heure-ci, je dois être à Miami. Ils ont scellé la sapée, la Rolly. Un peu romantique, un peu gangoli. Je suis un peu Manny, je suis un peu Tony. À cette heure-ci, je dois être à Miami. Ils ont scellé la sapée, la Rolly. Un peu romantique, un peu gangoli. Je suis un peu Manny, je suis un peu Tony. Je suis dans le resto, festin, on le fait à l'instinct. 10 millions et je laisse tomber. Il faut la crypto, Christo. On a pris le pisto, je préfère les plats de la madre.
Chérie veut Yves Saint Lolo. J'te donne mon cœur fait par Bobo. Même t'as pas à F, fais la photo. Tout va bien. Piloti, cocktail, coco. J'écoute pour m'aller, elle chante Lolo. J'suis certifié, j'peux pas te follow. solo, tout va bien.
Mame, ALONZONAPS.
LFL
95.5.
De retour sur le 95.5 FM avec moi-même Nicolas Boraski. Si vous venez de nous rejoindre, on démarre la seconde partie d'État et Civil, l'émission qui donne la parole à l'État, les collectivités, les citoyens, pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Ce matin, dans État et Civil, on part des cités éducatives dans les Yvelines. Alors pour expliquer, pour les auditeurs et auditrices qui sont arrivés en cours d'émission, les cités éducatives sont un dispositif né à partir d'initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l'État et les associations. Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu'à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Le label Cité éducative résulte de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires menée par le ministère de la Cohésion des Territoires. En termes de chiffres, on est à 200 cités éducatives labellisées, 1 million de jeunes de 0 à 25 ans, 230 millions d'euros de la part du ministère de la Ville pour un total de 323 collèges et 600 écoles mobilisées, en plus des lycées et universités. Directement sur notre département des Yvelines, quelques communes ont été choisies pour obtenir cette labellisation, comme Chanteloup-les-Vignes, Mantes-la-Jolie, Trappes, Les Mureaux et Poissy, comme étant les premières, cette première vague de communes choisies pour cette labellisation. Aujourd'hui, de nouvelles villes l'ont également obtenue, comme Plaisir, Sartrouville, Mantes-la-Ville ou encore Limay. En première partie, vous avez pu écouter mon entretien avec Jamel Nedjar, maire de Limay, ville ayant donc reçu tout récemment cette labellisation. Dans cette deuxième partie, vous allez écouter celui avec Catherine Arénoux, maire de Chanteloup-les-Vignes, ville ayant fait partie des premières villes choisies pour ce label. On écoute cela tout de suite et on se retrouve juste après. A tout de suite.
LFM 95.5.
Catherine Arnoux, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir au sein de la mairie de Chanteloup-les-Vignes. Je viens vous voir concernant le sujet des cités éducatives. J'ai pu échanger avec Jamel Nedjar, maire de Limay, qui ont obtenu cette labellisation. Vous, à Chanteloup-les-Vignes, c'est en 2019, vous avez fait partie des 80 villes labellisées cités éducatives. À Chanteloup, ça sera donc la cité éducative Simone Veil, si je ne me trompe pas. Il y a une petite particularité sur celle-là, non ? Vous avez travaillé en amont de la labellisation, si je ne me trompe pas.
Il y a plein de particularités. C'est Chanteloup, d'abord. Non, il y a plein de particularités. La première, c'est que le travail avait été fait bien en amont, avant la labellisation, parce que le projet était, dès 2016, de faire une cité éducative dans le cadre du projet de renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'en fait, on était, nous, dans la conception urbaine et dans la conception éducative, les deux étant intriquement mélangés. Elle a évolué, cette cité éducative, bien naturellement, tout le temps où j'ai fait partie du groupe de travail Borloo, hein, pour le plan Borloo, dans lequel les cités éducatives étaient bien évidemment inscrites. Et donc, la réflexion que j'ai eue en national a fait évoluer le projet local. Et donc, nous nous sommes fait accompagner dès le mois de janvier 2019 d'une équipe qui continue à nous accompagner, dont le but était de travailler la transversalité, le partenariat et de faire travailler tous les membres de la communauté éducative issus de différentes institutions. Donc l'idée, c'était de travailler bien en amont la communauté éducative de l'éducation nationale, le personnel du périscolaire, les parents bien évidemment, les enfants aussi, et les associations qui font partie du milieu éducatif. L'idée, c'était vraiment à Chanteloup, c'est vraiment de dire, ça peut se résumer en « nous sommes tous acteurs de l'éducation ».
C'est ça, c'est de travailler tous ensemble.
Tous ensemble, chacun dans sa part, chacun dans son savoir-faire, au service de la réussite de l'enfant. Donc tout le monde, en fait, se concentre sur le projet dont l'aboutissement est la réussite de l'enfant dans tous les temps de sa vie. De tous les temps de sa vie quotidienne, de tous les temps de sa vie annuelle et de tous les temps de sa vraie vie, entre le moment où il arrive à 3 ans et où il sort à 16 ans à la fin du collège.
D'accord. Pour nos auditeurs et auditrices, pour obtenir ce label-là, comment ça se passe ? Il faut répondre à un appel à projet, il y a des critères à avoir ?
Alors ça a beaucoup changé, bien évidemment, puisque nous avons fait partie de la première vague qui s'appelait une vague d'expérimentation. Donc on avait réussi, même si ça a été un peu compliqué, à vendre le principe cité éducative au gouvernement, et donc l'éducation nationale et le ministre de la ville ont lancé cet appel à projet, le premier appel à projet qui est sorti en octobre 2019, sur lequel effectivement il fallait concourir pour dire ce qu'on y mettait, ce qu'on y avait déjà mis, quel était notre concept. Et puis ça a évolué parce qu'il y a eu 40 villes supplémentaires qui ont été retenues dans une deuxième vague. Il y en a dans une troisième vague maintenant et ça doit évoluer puisqu'en fait, nous sommes quelques-uns, entre autres dans mon association Ville et banlieue, nous sommes quelques-uns à demander que ça devienne généralisé à toutes les collectivités en politique de la ville qui sont demandeurs de porter ce dispositif-là.
Justement, j'allais vous demander pourquoi l'avoir demandé, si je ne me trompe pas, vous me dites, hein, vous me reprenez. Chanteloup, c'est à peu près 10 000 habitants, moitié de la population qui habite en quartier prioritaire politique de la ville, donc QPV, et 47% ont moins de 25 ans. C'est par rapport à ces chiffres-là, notamment, que vous avez souhaité devenir une cité éducative, une ville-cité éducative.
Alors, c'est d'abord parce qu'on fait le constat, dans une ville comme la nôtre, parce qu'il y a une petite échelle, que si on travaille en sillon, chacun dans son coin, en tuyau d'or, vous voyez, on n'aboutira à rien. Donc c'est parce que déjà on sait qu'on est, on est tous ensemble autour d'un projet. Et le projet éducatif sur l'ensemble de la ville, c'est vraiment ça. C'est tous ensemble autour d'un projet. Pourquoi demander ce label ? Parce que c'est l'occasion, on peut le faire, on peut tâtonner, c'est ce qu'on a fait depuis des années. Mais tant que les institutions elles-mêmes ne se sont pas mises dans le projet de transversalité, de partenariat, et ne l'ont pas décidé comme un objectif que tout le monde porte, donc que ce soit, il faut que ce soit à un niveau plus haut, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'État, tant que les institutions ne l'ont pas décidé, sur les territoires, on rame, on n'avance pas. À partir du moment où on demandait ce label, on validait notre vision transversale de l'éducation.
On parle de 2019, 2020, pour cette labellisation-là. J'ai cru comprendre que déjà en 2016, que vous vous projetiez justement d'intégrer dans votre programme de renouvellement urbain un quartier entièrement voué à l'éducation et à la culture. Quel lien vous faites entre la rénovation urbaine et l'apprentissage ?
Et l'éducation.
Et l'éducation.
À quoi sert le bâti s'il n'est pas pour vivre mieux au quotidien, vivre mieux son avenir, donner des perspectives ? Le bâti en soi, les murs en soi, ça n'est, il faut que ça ait un objectif aussi. Dans le projet de renouvellement urbain, la cité éducative étant le cœur du projet, hein, et le maximum de ce projet de renouvellement urbain numéro 2, notre objectif était vraiment de travailler, donc on savait les difficultés qu'avaient nos différentes écoles, les enseignants, les enfants dans ces contextes-là, et notre idée c'était d'arrêter, de lutter contre l'échec scolaire et de travailler ensemble la réussite de l'enfant, d'inverser complètement la tendance, de partir de la base que chaque enfant a une compétence, mais c'est la façon dont on l'aborde qui la lui fait développer ou pas. Et faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Et donc, en fait, on avait, et c'est toujours ça, puisque le permis de construire vient d'être signé. Donc, vous voyez, on a bien avancé. Et donc, l'idée, c'était vraiment de penser le dispositif éducatif, mais le penser dans un lieu où il pourra s'exprimer. Et ce lieu où il pourra s'exprimer, c'est la cité éducative Simone Veil. Cité éducative Simone Veil qui comporte la maternelle, la primaire, le collège, le périscolaire, la restauration pour tous, une ludothèque médiathèque, une maison des parents, un centre santé. Donc c'est le lieu, avec une entrée centrale, c'est le lieu où en fait on vivra la vie de l'enfant et on accompagnera la vie de l'enfant sur un même lieu, avec ce qu'on appelle la maison des coopérations, c'est-à-dire un lieu où tout le monde rentrera, quelle que soit sa tranche d'âge et quel que soit son objectif. Quand le parent rentrera pour aller dans la maison des parents, il aura la même entrée, il fréquentera les mêmes lieux que son petit bout de 3 ans pour aller à sa maternelle, que l'enfant qui va à sa restauration scolaire, voilà. Et ça sera un lieu ouvert hors temps scolaire, puisqu'en fait, l'école a trop longtemps été fermée sur elle-même, fermée dans son bâti, fermée parce qu'elle a des horaires et elle a des utilisations qui sont évidemment pas très importantes sur une année complète. Donc l'idée, c'est aussi, ce bâtiment-là aura des actions pour tous, et des actions pour tous, ça veut dire que ce bâti-là sera ouvert. Ce projet-là, c'est pas sorti de notre petite tête, hein. On l'a suggéré et on a dit après, mais c'est les acteurs du territoire eux-mêmes qui doivent l'écrire. Et donc depuis début 2019, avec l'équipe qui nous accompagne, qui s'appelle Indivisible, nombreuses réunions ont été faites avec les acteurs qui ont fabriqué ce projet intellectuel d'éducation et qui ont fabriqué ce projet urbain. Avec un cahier des charges, avec ce qu'ils voulaient comme lieu de mutualisation, pour qu'on se... voilà. Et donc avec cette réflexion-là des acteurs du territoire, il a été fait un cahier des charges au service d'un concours d'architectes. Et il y a un architecte qui a été nommé, et qui depuis, il a été nommé début 2020, et depuis 2020, il continue à travailler avec tous les acteurs pour faire évoluer ce projet architectural, pour que ça soit plus près de la conception et de l'idée qu'en ont les acteurs de terrain. Permis de construire déposé, ça veut dire qu'on est au bout de 2019, 2020, 2021, un peu plus de 3 ans de réflexion locale.
Par rapport à la localisation de cet établissement, ce serait où ?
Alors, c'est, donc ça procède, alors pour l'installer, on procède à de grandes démolitions. Donc, on démolit la maternelle d'Orgelès, le centre de loisirs, l'école élémentaire d'Orgelès, et on s'accroche au collège qui a déjà eu des grandes rénovations et qui continuera ses rénovations pour s'accrocher à ce dispositif-là, s'il en fait complètement partie.
Les retours que vous pouvez avoir des enseignants aujourd'hui par rapport à la relation qu'ils ont avec les parents. Aujourd'hui, il semble que les parents ils sont beaucoup plus investis dans la scolarité des enfants.
Alors, je vais vous donner un exemple. À l'école d'Orgelès, qui va devenir la cité éducative Simone Veil, hein, parce que c'est essentiellement ce cœur de quartier, l'ensemble des enseignants n'ont pas voulu de mutation l'année dernière et cette année pour continuer à porter le projet. Il y a 12 ans, 15 ans, j'ai eu une année à Dorgelès où l'ensemble des enseignants avaient demandé leur mutation. Vous voyez la différence ? Les parents disent eux-mêmes qu'ils ont une confiance absolue dans ce corps enseignant là, de Dorgelès, qui est en attention, en continuité. Les enseignants actuellement travaillent, donc j'ai été voir, ils travaillent au passage dans la tête des enfants et des parents, au passage d'un lieu d'Orgelès qui va être démoli, à un autre lieu intermédiaire qui s'appelle la cité Champeau, avant de revenir à la cité éducative. Donc ils sont en train de travailler avec la culture, avec le cirque et tout ça. Ils sont en train de travailler ce passage d'un lieu à un autre, d'une façon de travailler à une autre, voilà, pendant toute cette année. Donc il y a vraiment un portage des enseignants assez fantastique et qui s'appuie énormément sur les parents qui sont très présents. Et ils ne sont pas présents que là. Les principales de collège me disent que jamais, depuis cette rentrée scolaire, ils n'ont vu autant de parents présents dans les différentes interpellations qu'ils font, réunions et tout ça. Donc ça a perfusé beaucoup plus que dans le noyau cité éducative, puisque en fait le principe cité éducative, c'est aussi c'est l'ensemble de la communauté éducative de toute la ville de Chanteloup. Et donc cette façon de s'intégrer à l'avenir pour les parents, bah, c'est en fait les autres écoles aussi ont été, les collèges aussi ont été témoins de ça. Et ça, c'est vachement bien.
En termes de date, au moment de la labellisation, j'ai plus toutes les dates en tête. Juste après, il y a la Covid qui est arrivée. Quel rôle a joué la cité éducative dans cette crise sanitaire-là ?
Bah écoutez, heureusement qu'on l'avait. Nous, on avait commencé à travailler en janvier 2019. Labellisé en octobre 2019. Mais le travail, il était déjà là. Covid, 17 mars 2020. Mais ça faisait un an que les gens travaillaient ensemble. Plus d'un an que les gens travaillaient ensemble. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été un drame absolu pour notre communauté éducative, pour les gamins, un drame absolu. Tandis que là, les gens se connaissaient, les familles se connaissaient, les familles connaissaient bien les enseignants connaissaient les familles, les enseignants connaissaient le personnel du périéducatif, enfin, tout le monde se connaissait, et donc tout le monde a pu aller chercher chez l'autre la compétence de faire. Les principales de collège vous diront que je crois qu'elles n'ont perdu, entre guillemets, que un ou deux enfants dans chaque collège. C'est tout. Pourquoi ? Ben parce que quand elle n'arrivait plus à joindre une famille, elle nous appelait, elles appelaient le périscolaire, elles appelaient les médiateurs en disant cette famille-là, qu'est-ce qui se passe, machin. Et les gens qui habitent le territoire, entre autres souvent les médiateurs, allaient voir sur place ce qui se passait, allaient voir pourquoi ils ne se connectaient plus, allaient voir quelles étaient les difficultés. On a récupéré 20 tablettes par-ci, on a récupéré tel dispositif par-là. Enfin, voilà. De façon à tout mettre, on avait la chance d'avoir Collège Magellan, où tous les gamins avaient leurs tablettes par le département. Donc du coup, ils les ont tous gardées. Ça a permis... Mais on a mis en place très très vite des solutions un peu papier, un peu connexion, de façon à ce que tout le monde se connecte. Ça n'a pas été une éducation parfaite, tout le monde le sait. Ça a été très violent pour l'ensemble des familles, parce qu'en plus, elles vivaient enfermées dans des lieux. Enfin voilà, tout n'était pas parfait. Mais la communauté éducative a travaillé en grande proximité, et donc du coup, à la dentelle. Et si on n'avait pas eu ce travail, cette confiance réciproque qui a été mise en place depuis un an et demi, je peux vous assurer qu'on en aurait perdu des loulous.
Je voudrais revenir sur une des réponses que vous avez données un peu plus tôt dans mes questions. C'était ce que j'avais noté aussi. En 2021, je crois que c'était lors d'une réunion des maires de France, vous aviez eu ces mots, donc je vous cite. « Les acteurs étaient là pour la réussite de l'élève et non pour lutter contre son échec. C'est ce qui change tout. » C'est le symbole des cités éducatives, Catherine Arnoux.
Je ne sais pas si c'est le symbole des cités éducatives, je l'espère. En tout cas, c'est le symbole de la cité éducative de Chanteloup. Mais ça part d'un principe simple, hein. C'est que, et c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les ados, c'est vrai pour les adultes. Par exemple, les ados. Les ados, ou les grands ados, les jeunes adultes qui sont en déshérence et en recherche d'emploi et tout ça. On a mis en place ici des coachs d'insertion par le sport. Pourquoi ? Mais parce que ces gamins-là, ou ces jeunes adultes, des compétences sportives ou des envies sportives, ils les ont. Donc en fait, on inverse la tendance, on va voir où ils ont des compétences et on utilise ces compétences pour aller vers, et entre autres, coach d'insertion par le sport, c'est pour aller vers l'emploi. Mais là, c'est la même chose. On part du principe que l'enfant, il a des compétences. Il n'a peut-être pas des compétences évidentes qui sautent aux yeux dans un système très classique, mais il en a, il faut juste qu'on aille ensemble les chercher. Et comme les acteurs viennent de milieux différents, d'institutions différentes, en fait, ils ont des regards différents. Le regard du milieu associatif sportif sur l'enfant, il n'est pas le même que le regard de l'enseignante, il n'est pas le même que le regard de l'animateur périscolaire. Et donc, fatalement, il y aura quelqu'un qui aura ce regard attentif, qui verra comment on accompagne plutôt ce gamin à participer, puisqu'en fait on est multilinguisme, on est cirque, culture, à participer plutôt à telle action qu'à telle autre, parce que dans celle-là, il va s'épanouir, et à partir de celle-là, il va pouvoir rebondir.
Deux dernières questions. Donc le label, c'est sur une durée de 3 ans. Une fois ces 3 ans passés, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la suite ?
Alors, c'est notre inquiétude, vous savez. Nous, on crie avant d'avoir mal, donc... Fatalement, on a un peu crié ici aussi. Oui, parce que 2019, on a eu la labellisation financière qui se prolonge jusqu'à fin 2022. Mais après, parce que c'est pas seulement l'envie de travailler ensemble, c'est des moyens qui sont donnés pour travailler ensemble, pour aller chercher des actions, pour faire des partenariats. On a par exemple un partenariat avec le Théâtre Montansier de Versailles, hein, qui fait un travail remarquable sur notre quartier. Enfin voilà, ça, tout ça, ça coûte aussi un peu d'argent. Hein, donc il y a des moyens qui ont été mis à notre disposition. Et fin 2002, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que, bravo les enfants, vous avez été très bons, on plie les gaules et voilà, ou on continue à vous donner des moyens, ou on l'inclut dans un dispositif général. Enfin voilà, c'est un vrai questionnement. Pour l'instant, on a à peu près l'assurance, indépendamment de cette ambiance électorale, hein, on est bien d'accord, on a à peu près l'assurance qu'il y aura prolongation sur 2023. D'accord. Voilà, ça a été dit par les différents ministres, donc ça veut dire que les moyens sont sans doute en train de se développer pour 2023. Mais il faut que ça rentre dans un dispositif global d'accompagnement de nos collectivités. C'est-à-dire, ça peut plus. C'était un dispositif expérimental. L'expérimentation, à cause ou grâce au Covid, a été quand même sur plein de territoires très positif. Il faut sortir de l'expérimentation, il faut rentrer dans un dispositif naturel, dispositif politique de la ville, voilà, dans lequel la cité éducative prendra toute sa place.
LFL 95.5.
Malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. Merci à Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes, ainsi que Jamel Nadjar, maire de Limay, d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous, les auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés. Vous en faites pas. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi à 11h pour un nouveau numéro d'État civil. En attendant, vous restez bien à l'écoute sur le 95.5 FM. Pour tout savoir sur l'actualité du moment dans les Yvelines, pas de soucis, restez bien à l'écoute, car vous allez retrouver Akimaya et la pause actu à midi et à 13h pour faire le plein d'infos locales. Pour la fin de l'après-midi, de 16h à 19h, vous pourrez retrouver l'émission Le Live présentée par Alice. Elle va vous accompagner et vous faire écouter les sons qui marchent le plus en ce moment. Et enfin, pour finir votre journée comme il se doit, de 20h à 22h, pour les vrais fans de notre rap français adoré, Mallory et son émission du Rap au Mic vous font découvrir les talents de demain, une émission 100% rap français, donc comme tous les mercredis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée à l'écoute d'LFM.
C'était État et Civil.
C'était État et Civil
sur LFM.